On passe à table.
Chérie, on passe à table. Spécial pack aujourd'hui avec Edouard Christodeau, chef du restaurant W à Saint-Clair, et Julien, chef pâtissier au même restaurant, spécialiste aussi de toutes les cuisines du monde, Julien. Alors, on parle de Pâques, qui dit Pâques dit forcément agneau pascal. Alors, c'est vrai qu'il y a des traditions, par exemple, qui sont un petit peu commerciales. Je pense, par exemple, au veau de la Pentecôte. Il n'y a aucune tradition vraiment, c'est plus l'industrie de la viande peut-être qui a mis cette idée-là. L'agneau pascal, là, il y a...
À la base, l'agneau pascal, il faut savoir que la recette de l'agneau pascal, c'était, je ne vais pas te dire de bêtises, hein, mais je me souviens que c'était le carré trescôte que les bouchers faisaient en couronne à l'époque, donc pour représenter vraiment, ça représentait une vraie couronne, et on grillait la viande. C'était une viande qui était grillée, c'était pas un gigot, ouais. Une épaule, machin, c'était pas ça. Donc ça, c'était le vrai agneau pascal. Moi, la recette que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est la recette que faisait ma mamie, tout simplement, qui est le gigot de 7 heures. Donc le gigot de 7 heures, elle, ce qu'elle faisait, si tu veux, donc on avait une cheminée à la maison avec une grosse crémaillère, et elle pendait, si tu veux, donc on attachait le gigot avec un bout de ficelle, elle faisait de la grosse braise le matin, et tu attachais, si tu veux, tu donnais deux nœuds à ta ficelle pour qu'elle ait une rotation permanente. Elle ne s'arrêtait pas, voilà, avec la chaleur de la braise, tu veux, ta ficelle n'arrêtait pas de tourner, et ton gigot pendant 7 heures comme ça cuisait vraiment tout doucement. Alors là, je dirais que honnêtement, voilà, on prend un gigot. Alors, il faut un beau gigot. Moi, je prends les gigots d'agneau français et un beau gigot d'agneau de lait, hein, parce que là, ça va être le moment. Et puis dans la région quand même, on en a pas mal. Prendre un beau gigot. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le frotte à l'ail. J'épluche mon ail complètement et je le masse à l'ail. Je le sale, je le poivre, et après, l'ail avec lequel j'ai frotté, je le dégerme à l'intérieur et je le pique, mais je rentre jamais dans le muscle. Si tu veux, je vais aller entre le gras, justement, le gras et le muscle. Mais je vais pas aller plus loin. Donc je vais glisser mes quarts de gousse d'ail là-dessous et je vais les glisser justement à l'intérieur en couronne. Ouais. C'est-à-dire que tous les 3 cm à peu près, je vais retourner mon gigot et hop, je vais glisser un quart à chaque fois. Et ça sur toute la longueur de l'agneau. Donc, ce qui va vraiment permettre une diffusion aromatique de l'ail à l'intérieur, et ça va vraiment être meilleur. Après, donc, je prends mon gigot, je le fais saisir, et je vais ramasser du thym, du laurier. Je mets jamais de romarin, moi, avec ces trucs-là. Ouais. Voilà.
Trop fort, le romarin, c'est pour ça, non?
Hein?
C'est trop fort, le romarin?
C'est trop fort, et puis moi, gustativement, j'aime pas.
Ouais.
Donc, après, si tu veux, je frotte pareil avec mon thym, mais dans mon plat, je fais vraiment un tapis de thym.
D'accord.
Voilà.
Ouais, le gigot repose sur les herbes aromatiques.
Voilà, c'est ça. Il repose vraiment sur un tapis de thym. Je le mets dessus, et puis une fois qu'il a été saisi, je le mets... Donc je le mets au four. Alors vu que je l'ai saisi, je lui fais une cuisson lente. Je vais le cuire à 180. Mais alors par contre, je vais le cuire très longtemps. Je vais le cuire 2-3 heures suivant la taille de mon gigot. Et il faut savoir que tous les 3 quarts d'heure, grosso modo, je rajoute un demi-verre d'eau dessus.
Ouais, voilà. Pour que ça fasse le jus. Et que ça
voilà.
Fasse du jus.
Donc les deux premières demi-heures, donc je vais balancer mon verre d'eau dessus. Et après, je vais prendre donc ces poires maintenant qu'on trouve dans tous les magasins de gadgets culinaires, où on arrose l'agneau avec. Voilà. Et on le retourne à chaque fois, bien sûr.
Voilà, pour qu'il soit bien tendre et qu'il ne sèche pas.
Ouais. Alors là, en ce moment, vous allez me dire, il y a des asperges qui commencent à arriver. Parce que c'est vrai que là, les saisons, moi je regarde un petit peu ce qui se passe, tout est complètement décalé. Parce que là, les premières asperges vertes commencent à sortir. J'ai vu qu'il y avait les premières garriguettes qui arrivaient, alors que normalement ça arrive au mois d'avril. Donc, normalement.
Plus de saison, ma pauvre dame.
Mais non, mais c'est de la folie, hein, prof que quoi, on a un gros problème avec ça. Là, moi, j'irai sur de la fève, parce que de la fève, j'adore ça. Donc, vraiment, je vais m'embêter. Donc, si tu veux, je vais blanchir mes fèves. Et une fois que mes fèves, elles sont blanchies, je vais enlever cette première peau qu'il y a dessus, qui est toujours qui est très épaisse et qui est pas bonne. Donc, je vais enlever, je vais m'embêter, je vais faire tout mon sac comme ça, je vais les enlever. Et après, je vais faire ce qu'on appelle une julienne de lard. Donc, je vais aller chez mon boucher, chez mon artisan boucher, je vais lui acheter du lard fumé. Et je vais le tailler vraiment très fin. Je vais lui demander des tranches de 2 mm à la machine à jambon. Et je vais faire une julienne, des petits bâtonnets dedans, mais très très fin. Et je vais faire revenir donc une échalote avec un oignon. Je vais bien les faire revenir, mais sans coloration. Je vais rajouter mon lard dedans et mes fèves cuites au dernier moment. Et je vais récupérer avec la poire dans le four le jus de l'agneau. Et je vais faire confire justement mes fèves là-dedans pour vraiment qu'elles prennent... vraiment tout le goût de l'agneau, quoi.
D'accord. Là, tu parles de recettes avec des fèves fraîches.
Avec des fèves fraîches, ouais. Bien sûr. Alors, bien sûr, vous pouvez acheter des fèves surgelées, mais il y aura toujours cette peau dessus, donc à pas oublier de l'enlever parce que c'est vraiment pas agréable.
Moi, je pensais surtout aux fèves sèches, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a souvent. Ouais. Et moi, j'ai toujours le souci, c'est que je m'y prends trop tard. Il faut faire tremper ça.
À 12h, et c'est terminé. Ah bah, donc, voilà. Non, moi, j'utilise pas ce genre de truc-là. Vraiment, j'achète ou du frais. Après, je te dis, je crois que j'ai vu ça dans des supermarchés il y a pas longtemps. Ça existe, les fèves surgelées,
ouais.
Mais bon, après, oui. En goût, je me prononce pas là-dessus.
D'accord, mais le travail est le même qu'on achète de la fraîche ou de la surgelée, donc autant aller sur la fraîche, ouais.
C'est ça.
D'accord.
Voilà, et puis là, c'est vrai que tu vas avoir un goût qui est extraordinaire, parce qu'entre le lin, les oignons dans les fèves, avec ta tranche de gigot, et ce qui est assez marrant, c'est quand vous mettez tous les 3 cm dans l'agneau, l'ail, vous allez vraiment avoir une rosace à l'intérieur, ça va faire comme une marguerite à la tranche, c'est vraiment joli.
Ça va être joli en plus. Ouais. Alors tu nous as, bien sûr, agneau de nos régions, si on peut.
Sûr.
Juste un petit mot, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, surtout au surgelé, l'agneau de Nouvelle-Zélande.
Alors, ouais, l'agneau de Nouvelle-Zélande. Tu vois, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai invité Christophe Guèze ici, ouais. Et on a discuté des produits régionaux. Je ne comprends pas pourquoi, à aujourd'hui, vous ne paierez pas plus cher un agneau du coin. Il faut être très clair. Suffit après d'avoir un bon boucher, un mec qui est sérieux, un vrai artisan, quelqu'un qui aime son métier, et il ne va pas vous vendre ça non plus sur des prix démentiels. Après, l'agneau de Nouvelle-Zélande, il ne faut pas vous attendre. Vous allez avoir un bel agneau en visu, c'est clair. Ouais. Vous allez l'acheter, il va être gros. Par contre, ne vous étonnez pas s'il réduit de moitié, quoi.
D'accord.
C'est ça. Enfin, moi, je n'irai pas là-dessus. Après, la semaine prochaine, justement, on va parler de malbouffe. Et sur la malbouffe, ça, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je trouve ça juste hallucinant. Je veux dire, ici, on est quand même en campagne. On a des fermiers, des agriculteurs et des gens qui sont des artisans qui font des produits magnifiques. Et franchement, je préfère vraiment aller acheter mon agneau là. Là, je vois, c'est ce qu'on va faire au restaurant. Je préfère aller acheter mon agneau
ouais,
chez ces gens-là.
Un agneau qui a fait 10 000 km en bateau.
C'est ça. Enfin,
bon. En tout cas, on a une bonne recette. Alors, on l'appelle l'agneau de 7 heures. Agneau de 7 heures, c'est le nom qui reste de la grande époque.
C'est
où,
ça,
voilà,
où
maintenant,
ça tournait 3-4
heures.
C'est ça, parce que forcément, au-dessus de la Bresse, on n'avait pas cette chaleur tournante qu'on a dans notre four, cette cuisson par concentration. Donc forcément, ça durait beaucoup plus longtemps. Après, le faire au four. Vraiment, ce qui est très important dans cette recette-là, c'est le tapis de thym dans lequel vous allez mettre votre gigot et de le piquer vraiment tous les 3 cm.
On voit des fois, j'ai vu des recettes où on fait cuire son gigot dans de la paille.
Après on fait beaucoup de choses au foin, des choses comme ça. Bah, là on est en train d'essayer justement une ganache au foin, ça c'est intéressant de faire une ganache, donc on prend notre lait, c'est pareil, vous voulez donner un goût un peu plus ambré à vos chocolats. Par exemple, Julien a déjà donné cette recette, c'est-à-dire la recette du chocolat, du beurre, de la crème, et à côté on met le lait à chauffer, et dans le lait, si vous voulez, on met donc on fait chauffer notre lait, quand notre lait bout, on fait couler notre lait sur le chocolat, mais avant on met dans un tamis, on met du foin et on fait couler le lait sur le foin. Et là vous avez vraiment un goût
un peu corsé
qui va arriver, un peu herbacé, que j'aime beaucoup.
D'accord, bon ça y est, on vient déjà d'aborder un petit peu les sucreries, là on vient de parler de chocolat.
Je refile le flambeau à Julien.
Voilà, ce sera la dernière partie de cette émission dans un instant. On va parler gâteau, on va parler petites délices traditionnelles de cette fête de Pâques. Mais d'abord, voici un autre petit délice, c'est Joyce Jonathan.
C'est Joyce Jonathan sur Chérie FM. Nous, sur Chérie FM, on adore le nouveau Joyce Jonathan. Et vous ?
Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. Le bonheur, c'est pas la chute, mais le chemin.
Tout de suite, mon nouveau titre. Chérie FM, pop, love, musique.
Je passe le clair de mon temps, juste à passer le temps, repasser les chemises que j'ai portées le jour d'avant. Je passe le clair de mes nuits, à repenser la vie, à passer en revue une dernière fois mon aujourd'hui. Alors c'est toi et moi. d'enfant. Je passe mon temps à penser à l'avant, à l'après. Allez, c'est décidé, je veux profiter de mon présent. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis. Je veux pas laisser passer ma vie. Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. Le bonheur, c'est pas la chute, mais le chemin. Mon bonheur, c'est toi. Mon bonheur, tu le sais. C'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Que même si je vieillis, je veux pas laisser passer ma vie. Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. Le bonheur, c'est pas la chute, mais le chemin. Mon bonheur, c'est toi. Mon bonheur, tu le sais. C'est toi et moi sur l'eau.
On passe à table.
Chérie, on passe à table, émission spéciale Pâques aujourd'hui avec Edouard Christodo, chef du restaurant Le W à Saint-Clair, et Julien, chef pâtissier dans le même restaurant. Julien, c'est à toi maintenant. On a parlé de l'agneau de Pâques, agneau de 7h avec Edouard juste avant. Et ben maintenant, tu vas nous parler de tous ces petits gâteaux qu'on confectionne. Il y en a qui viennent de chez toi, il y en a qui viennent d'ici, de Cray. On a une tradition à Cray. Et puis on va également parler de gâteaux italiens. Oh bon, vu que tu es notre invité, on va te faire l'honneur de débuter par un petit gâteau alsacien.
C'est ça. Non, bah ouais, on parlait, bah moi, ce qu'on mange, c'est l'Oster Lameleux. Donc ça se dit comme ça. Et c'est un biscuit, c'est un peu comme une génoise, mais c'est en forme d'agneau. Pareil, c'est toujours pour rendre hommage à ce fameux agneau de 7 heures, ou alors l'agneau pascal, mais c'est ça. Donc c'est pas compliqué, en fait, c'est 150 g de farine tamisée, 150 g de sucre. 5 œufs, donc séparer les jaunes des blancs, une cuillère d'extrait d'amande amère, donc une cuillère à café, pardon, d'extrait d'amande amère. Donc la recette n'est pas très compliquée, il suffit juste de blanchir les jaunes avec le sucre. Donc les jaunes d'œufs avec le sucre, on les fouette pour justement...
Qui deviennent mousseux.
Qui deviennent mousseux, et à ce moment-là, les jaunes vont perdre en couleur, ils vont devenir plus pâles, donc on les a blanchis. À ce moment-là, on rajoute la farine tamisée, donc il est important qu'elle soit tamisée, parce que sinon on risque d'avoir des petits grumeaux. Donc le fait de la tamiser évite ce résultat. Donc ensuite, on fait les blancs qu'on les fait monter en neige. Une fois qu'ils sont montés en neige, on les ajoute à notre mélange d'œufs, de sucre et de farine.
Vous montez les blancs en neige à la main encore ou tout à la machine?
Alors Julien, tu vois, il a un bras, c'est marqué kitchenette dessus.
Ouais, c'est un batteur. Il a le bras droit musclé et le bras gauche,
c'est ça. Non, c'est pas du tout ça.
On se fera un concours de montage d'œufs un jour à la fourchette.
Sans problème. Mais les œufs, en fait, il y a des trucs bêtes. Par exemple, un œuf blanc montera plus facilement la température déjà quand il est frais.
Ouais.
Donc quand on vient de le clarifier, et ensuite quand il est à température ambiante.
Ouais, on peut le passer sous. Moi, c'est ce que je fais. Je le passe sous l'eau chaude avant de...
Il y en a qui font ça, il y en a d'autres qui mettent une pincée de sel, ça aide
aussi. Ouais.
Donc après, chacun a sa technique, mais c'est vrai que pour le coup, les blancs d'œufs, le meilleur résultat, c'est quand ils sont en température.
Mais c'est une belle idée, ça en sera un concours, on filmera, on mettra
sur la place.
Et avec,
ouais.
Après, on renverse le saladier au-dessus de la tête pour voir si ça tient.
Ouais. Donc voilà, on a nos blancs, donc on a mélangé à nos mélanges d'œufs, sucre et farine. Une fois que c'est fait, il faut juste faire attention, par contre, ça c'est la technique, c'est quand on incorpore nos blancs, de le faire avec une maryse, une spatule en plastique, et justement de l'incorporer délicatement, parce que sinon on casse justement ces blancs en neige, et on n'aura pas quelque chose de très moelleux. Donc une fois que ça c'est fait, on moule. Donc il existe des moules en forme d'agneau, ça c'est ce qui se fait dans la région. Donc c'est un moule en fonte qu'on beurre pardon, et qu'on farine. À un moment où c'est fait, on y fait couler notre appareil et on le cuit à 150 degrés pendant 30 à 45 minutes. Et c'est ce qui fait qu'on a justement ce fameux Oster lameleux qui est un gâteau en forme d'agneau. Après, on le saupoudre de sucre glace et puis...
D'accord, donc c'est un gâteau plutôt moelleux, quoi. C'est pas du biscuit, ça.
Oui,
ça.
Voilà, c'est plutôt moelleux. C'est un peu comme une génoise, mais vu qu'il n'y a pas de matière grasse, c'est un tout petit peu plus sec.
D'accord. Et du coup, il y a aucun arôme
non, à c'est l'intérieur vraiment, c'est comme ça. Après, on le mélange, justement, nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a l'agneau. Moi, je me rappelle justement de ma grand-mère, qui est originaire de Lorraine, qui, elle, pour le coup, coupe l'agneau, donc ce fameux biscuit, après, on le trempe dans le café, c'est toujours en fin de repas, c'est comme ça qu'on
D'accord.
fait. J'ai une autre grand-mère, bah, justement, c'est... j'ai eu cette chance d'avoir le gâteau qui s'appelle le Campanar della Nonna. Donc, le Campanar della Nonna, c'est tout simplement une pâte, c'est une pâte feuilletée briochée, c'est un peu comme un croissant, sauf qu'elle est... On va dire elle tire plus sur la brioche. Et ma grand-mère, en fait, elle lui donnait une forme de flot. Et dans l'arrondi du flot, elle m'y mettait un œuf. Donc, quand on était petit, on comprenait pas. On voulait des œufs en chocolat. Et en fait, nous, on avait ça. Et c'est plus tard que j'ai appris, justement, que c'était une tradition, tradition italienne. Et c'est ce qu'on offrait à Pâques.
D'accord. Ça ressemble, ça se rapproche un peu du panettone, non, peut-être ?
Ça ressemble un peu au niveau de la texture. Mais ça, enfin, moi, pour le coup, pour avoir mangé les deux, ça... Moi, je sais que ça n'a rien à voir. Mais après, oui, c'est vrai que pour avoir un ordre d'idée, oui, ça ressemble un peu à ça.
Allez, on revient dans notre région, ouais. Où à Cray, là, on a une tradition.
C'est ça, la couve crétoise. Ouais. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est une pâte sablée. Donc c'est un fond de pâte sablée. Donc ça se cuit comme une tarte, au final. Et dedans, par contre, on y met un appareil qui est aromatisé soit la fleur d'oranger, soit au citron, soit même des fois les deux, on a ces variantes-là. Et on représente, avec notre surplus de pâte, on y fait justement des petits œufs qu'on pose sur le dessus qui représentent justement... la tradition de Pâques.
D'accord, un gâteau, parfois, je sais que la couve crétoise, parfois, aromatisé à l'orange, hein, on y met des zestes d'orange dedans.
Ouais, c'est ça.
Et comme ce que je disais donc tout à l'heure, lorsqu'il a la forme d'un petit bonhomme, c'est exactement la même recette, mais on appelle ça un Suisse.
Voilà.
Voilà. Et il paraît que c'est assez localisé, puisque, alors je sais pas, c'est ce que j'ai entendu dire, que à Montélimar, par exemple, la tradition n'existe pas. C'est vraiment...
Ah oui, c'est vraiment, ouais. c'est créé, on est dans la Drôme, on est vraiment à ce moment-là, ouais.
D'accord, donc toutes ces petites, ces petites douceurs. Alors, pour trouver dans notre région un Oster lameleux.
Oster lameleux.
Voilà, dans notre région, ça va être difficile à trouver.
Ouais.
Si on a de la famille italienne, le Campanare della Nonna, ça doit être possible.
Nonna.
De la Nonna.
La Nonna, c'est la grand-mère.
Et donc voilà, et sinon, donc le fameux la couve crétoise, ça dans toutes les boulangeries de la région, oui. Le pâtissier, le boulanger est originaire du coin, il doit pouvoir nous en faire.
Comme on en parle souvent, il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de gens qui tiennent des blogs, des recettes justement traditionnelles, c'est là où on voit justement toutes ces petites recettes, toutes ces choses qui font que des fois des gens perdurent la tradition et c'est plus facile, c'est plus abordable que d'avoir la grand-mère de la grand-mère d'un tel qui fait ça. Quoi.
Bon, en tout cas, on a appris pas mal de choses sur la tradition pascale, on va rapidement parler de ce que tu vas proposer, toi, mais aussi Edouard, au W pour ce menu pascal. Toi, tu vas nous faire, Julien, un dessert plutôt original. Tu vas parler de Pâques, mais pas le Pâques auquel on s'attend.
J'ai abordé Pâques, mais d'une autre manière, parce qu'en fait, je voyais ce qui se faisait un peu autour de chez nous.
Ça fait très longtemps qu'il n'est pas parti en vacances, je tiens juste à le préciser.
Ouais,
avant.
C'est ça, voilà. On me donne pas de vacances, donc j'en profite. Non, mais en fait, j'ai travaillé Pâques, mais d'une autre manière, parce que je cherchais quelque chose qui me faisait penser à Pâques, et j'ai tout simplement pensé à l'île de Pâques. Donc à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, j'ai trouvé des moules quand j'étais à l'époque à Las Vegas, et j'ai trouvé justement...
Comme il se la pète, ouais, excuse.
Non, mais c'est pas n'importe quoi. Non, c'est juste parce que c'est... Il y a que là-haut que j'ai pu trouver des moules, mais vraiment... Alors, j'ai trouvé des moules en forme de balles de fusil, mais pour le coup, je me suis dit, non, j'en ferai rien.
Pas ce moyen, oui.
Par contre, j'ai trouvé des moules en forme de moai, et c'est vrai que pour le coup, ça m'a tout de suite donné une idée. Je me suis dit que j'allais tout simplement représenter l'île de Pâques avec ses moai. Donc moi, je vais tout simplement faire un dessert 3 chocolats. Donc il y aura un moai au chocolat blanc, au chocolat au lait, au chocolat noir. Et en fait, je vais travailler tout ça. Je vais représenter cette île de Pâques. Donc le crumble je vais faire un crumble noir qui va me représenter cette terre volcanique. Et il va y avoir plein de petites choses comme ça, quoi. On va travailler autour de l'île de Pâques, parce qu'à savoir que l'île de Pâques a été découverte le jour de Pâques. C'est pour ça qu'elle tient son nom.
Et ben voilà. Mais on apprend des choses dans cette émission, c'est dingue, quoi.
Et c'est ce qui fait que voilà, c'est mon clin d'œil pour Pâques. Je voulais pas faire une poule, je voulais pas faire un nid, je voulais pas faire des œufs, je voulais ni un lapin, je voulais vraiment L'île voilà. de Pâques, pour moi, c'est autre chose.
Avec des moai, voilà. Pour ceux qui... moai, c'est les statues qu'on trouve sur l'île de Pâques, ces petits bonhommes avec des grands nez et qui croisent les bras, qui ont l'air méchants.
Un grand nez, c'est ça. voilà. Donc, quand on se met de loin, des fois, on croit qu'en cuisine, un certain Edouard Christodo ressemble à un moai, mais non, non, ça va.
c'est vrai que t'as la même pose, là, Edouard, que le moai. bon, et sinon, au niveau du salé, toi, tu nous fais quoi pour Pâques?
Alors, nous, on a fait un œuf retour en forêt. Donc, l'œuf retour en forêt, c'est justement, on attaque un peu les asperges en ce moment. Donc, j'ai commandé des belles asperges. On va faire un œuf parfait. C'est un œuf qui est cuit basse température avec justement tout. On a représenté une terre avec justement ces asperges, ces pousses de petits champignons tout autour et l'œuf parfait qui sera au centre. On a fait aussi l'agneau, hein, le fameux agneau, et on a fait notre agneau en terre d'Ardèche, donc qui est nos plats signatures. On fait une terre à base de champignons, d'oignons, c'est de la terre comestible, clairement. Donc on fait tout ça et on va poser notre agneau dessus et on va redresser dessus tout, comme un sous-bois. C'est dressé sur une écorce de bois, c'est magnifique.
D'accord, donc aussi beau que bon. Mais si vous voulez goûter ce fameux agneau en terre d'Ardèche ou encore les îles de Pâques de Julien, rendez-vous au W. À partir de quand on le découvre ce menu?
On le fera dimanche et lundi de Pâques.
D'accord, ouais, c'est deux jours, il faut pas rater. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir donné des petits conseils, des petits secrets pour réaliser des bonnes recettes à l'occasion de cette fête de Pâques. La semaine prochaine,
on a
rapidement parlé malbouffe. Alors, on va un petit peu parler des pièges à éviter et de ce qu'il ne faut pas manger. On va également donner des petites recettes parce que faut quand même reconnaître que la malbouffe, c'est pas bon, mais on aime ça.
On peut jouer avec.
Voilà, et justement, comment se faire ces petits plats qu'on aime bien manger de façon un peu plus saine chez soi aussi. Voilà, vous avez à l'avant-goût de mercredi prochain. Merci encore d'avoir été avec nous. Et tout de suite, nous, on retourne à la musique sur Chéri FM avec Yal.
Bye.